RCF.
Jean Descartes, le roi George VI, meurt le 6 février 1952. Élisabeth et Philippe sont au Kenya et c'est là qu'elle apprend que son père est mort et que donc elle est désormais la reine.
Alors, il faut rappeler que George VI donc, ne devait pas régner et que c'est le célèbre roi qui bégait. On se souvient du film Le Discours d'un roi, qui est un homme très courageux, qui va prendre ses leçons avec un orthophoniste assez pittoresque et qui sera formidable pendant la guerre, d'exemple, avec son épouse, la reine-mère, qui aura des mots étonnants du genre quand Buckingham Palace est bombardé, elle sort et elle dit « Moi aussi, je peux regarder les quartiers populaires de l'Easton, nous avons été bombardés. » Élisabeth et Margaret ont vécu la peur des bombardements allemands, le rationnement, l'espionnage, enfin tout ce qui pouvait arriver. Alors, le roi George VI, qui avait un cancer du poumon, qui fumait énormément, y compris avec Churchill, savait très bien qu'il était en grand danger. Il avait été opéré, on lui avait retiré presque un poumon à Buckingham Palace, transformé en hôpital. Et donc, au début de 1952, lorsque Élisabeth part faire une tournée, je dirais, y compris de gratitude envers les colonies, anciennes colonies et tous les territoires qui ont participé à la guerre aux côtés du Royaume-Uni, on l'a vu longuement saluer sa fille à l'aéroport de Londres, exceptionnellement.
Ce qui était
longuement.
Inhabituel. Hein.
Voilà, inhabituel, et on a pensé, alors que on avait dit mais non, il va très bien, il savait lui-même qu'il était condamné.
C'était un adieu en quelque
sorte. C'était un adieu, absolument. Et alors, la nouvelle est arrivée selon un code. Comme d'habitude, il y a d'ailleurs un code aujourd'hui pour la mort du souverain, et qui a été donné par erreur il y a 2 ans, et la reine, recevant le directeur général de BBC, qui était dans ses petits souliers, vous imaginez, elle lui a dit simplement « Quelle nouvelle, je n'étais pas au courant ». Bien, la reine a donc beaucoup d'humour. Alors, elle est avec Philippe au Kenya, donc un aide-de-camp est le premier informé, et c'est lui qui informe Philippe, et c'est Philippe qui va informer son épouse du décès du roi George VI. Alors là, un changement fantastique dans la vie publique et privée. Désormais, Philippe devra marcher 3 pas derrière son épouse. Elle était arrivée princesse héritière. Elle est en reine en revenant à Londres après un voyage très compliqué. Et bien sûr, elle descend en noir et elle fait remarquer à une de ses dames d'honneur que devant le ballet des Rolls-Royce, Bentley et autres grandes limousines, on a fait venir les corbillards.
C'est Churchill qui l'attend à la descente de l'avion.
C'est Churchill qui l'attend à la descente de l'avion. Alors Churchill sera très vite fasciné par la connaissance politique et technique des dossiers qu'a la reine. Et va naître une grande, grande complicité entre le Premier ministre et le souverain. Ils s'entendront très bien. Ils vont même discuter des courses et de paris, puisque la reine parie beaucoup, jamais de sport, bien sûr, comme dit Churchill. Et ils s'entendront très bien. Et je dis tout de suite que c'est exceptionnel parce que il restera son premier ministre longtemps et puis il voudra finalement partir parce qu'il est très âgé. Et au décès de Churchill en 65, alors que la reine ou le roi ne doit pas faire de commentaires sur le premier ministre, enfin de commentaires publics, qu'il soit vivant ou décédé, elle a fait une exception pour Churchill en disant « il était divertissant ». Ce qui est un mot qui résume tout à propos de Churchill.
Alors quel délai entre ce moment où elle rentre en souveraine à Londres et le couronnement?
Eh bien, un long délai de deuil, parce qu'il fallait s'y préparer, qu'il fallait voir un petit peu politiquement, on était entre 52 et 53, Staline est toujours vivant, il y a un après-guerre compliqué en Allemagne, il y a les pays d'Europe centrale qui s'agitent, la décolonisation, c'est très très complexe. En plus, budgétairement, on veut faire les choses bien, mais pas n'importe comment. Donc ce couronnement a une particularité pour moi extraordinaire, c'est l'aspect visionnaire et futuriste de la reine. En résumé, elle exige que son sacre et couronnement soient télévisés. Churchill est contre, il y a une grande polémique, la BBC ne sait plus quoi penser. Alors la télévision est encore rudimentaire, elle est en noir et blanc bien entendu, mais la jeune reine a compris que la télévision changeait la vie des gens et que ce serait une faute politique de réserver aux seuls invités de l'abbaye de Westminster les fastes de ce sacre et de ce couronnement, et que non seulement dans les pubs, mais dans les plus lointaines habitations, dans les villages perdus, dans les montagnes, on doit pouvoir y assister comme si on était invité. Et ce faisant, Elisabeth II montre. Donc elle a permis un spectacle. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a voulu faire respecter la partie mystique et sacrée, le sacre proprement dit, en disant « ma vie commence aujourd'hui au sacre, sa vie de chef de l'Église et de souveraine, les deux choses étant liées ». Et on a mis un dais pour ne pas filmer le moment mystique. On n'a pas voulu violer, si vous voulez, l'intimité du sacré.
Elle est donc chef de l'Église anglicane.
Elle est chef de l'Église anglicane, elle nomme les archevêques, elle est très consciencieuse en matière de religion. Depuis Henri VIII, on sait ce qu'il en est. Et c'est très important pour elle, et porter la couronne de Saint-Édouard et puis une un peu moins lourde qu'on appelle la couronne d'État, impériale d'État, tenir le sceptre, faire un serment de foi et de bon jugement comme autrefois les rois saints. C'est très très émouvant, c'est une cérémonie très longue et qui va marquer le début de l'après-guerre.
Pour la sixième fois dans l'histoire d'Angleterre, une reine reçoit la couronne. Grande journée pour le monde britannique qui vit ses plus belles heures depuis la fin de la guerre. Parti de Buckingham Palace, le carrosse historique où ont pris place la reine et le duc d'Édimbourg se dirige vers l'abbaye de Westminster entre deux haies d'une foule telle qu'on n'en vit jamais. Millions de spectateurs sont en effet debout sur le passage du cortège. La plupart ont passé la nuit à leur place, mais la vue du carrosse doré, le visage clair de cette reine de 27 ans qui symbolise l'avenir britannique, sont une magnifique récompense.
La suite de l'histoire.
Elle est déjà mère de famille. Lorsqu'elle est couronnée, elle a deux enfants.
Absolument, elle a deux enfants et elle essaye d'avoir la vie la plus normale possible. La reine sait très bien faire la différence entre le faste de la tradition et le gaspillage. Elle est très économe.
La famille vit à Buckingham Palace.
Alors la famille qui se trouvait à Kensington a changé de domicile en devenant, puisque Elisabeth II devient la reine. Il faut rappeler que Buckingham est un palais entré dans l'histoire à partir de la reine Victoria. C'est immense.
600 pièces,
c'était très mal chauffé, très mal éclairé. Il va falloir organiser tout ça. Et dans cette période, tout de même, est en train de mijoter un complot ourdi par Moscou qui n'explosera que bien plus tard, mais enfin, ce sera stupéfiant pour la reine. Sir Anthony Blunt, spécialiste du 17e français, notamment de Nicolas Poussin, avait été un agent secret au service du roi George VI contre l'Allemagne pendant la guerre. Et on découvre que c'est en fait un agent de Moscou, qu'elle
Trahison.
Avait décoré, qu'elle va dégrader, donc qu'elle voyait à peu près tous les jours, ou au moins une fois par semaine. Donc, elle a vu de près ce qu'était la guerre froide.
Est-ce que très vite, Jean Descartes, on s'aperçoit que c'est une jeune femme qui a la carrure, qui entre très vite dans le rôle et plus que ça, qui l'incarne
absolument.
Véritablement.
Elle l'incarne et c'est en ce sens que sa préparation politique avait été réussie. Devoir et droit du souverain constitutionnel, ne jamais mal faire, ne pas choquer, ne pas exprimer publiquement son opinion, fédérer le maximum d'opinions et d'avis pour mécontenter le moins de gens possible, c'est la règle de vie du monarque. À la limite, je vous dirais, peu importe que le Premier ministre ou le gouvernement soit travailliste ou conservateur, est-ce que la décision prise est bonne ? Il y en a des bonnes et des mauvaises de tous les côtés.
Quitte à passer quand même pour quelqu'un qui n'a ni sentiment, ni émotion, ni affect.
Alors, parce qu'elle ne doit pas montrer ses sentiments, c'est une réflexion personnelle, en anglais « never explain, never complain », on ne dit pas, on ne se plaint pas. Alors, ça a un revers, c'est qu'on a l'impression que la reine, effectivement, n'a aucun sentiment,
froide.
Une passion est froide. Non, elle est neutre, elle est distante, et si elle a des douleurs, elles ne peuvent être que personnelles, et si elles sont nationales, alors à ce moment-là, c'est une catastrophe complète. Alors, je prends deux exemples, en allant plus vite. On a vu jusqu'à présent la reine pleurer en public une seule fois. C'est bien plus tard, lors du désarmement du yacht Britannia. Pourquoi pleurer pour un yacht ? C'est oublier que c'était la seule maison qu'elle a construite avec Philippe. Parce qu'à côté des 10 siècles de Windsor, des fastes victoriens de Balmoral ou même du manoir privé de Sandringham, ce bateau, qui était une unité de la Royal Navy quand la reine était à bord, qui était équipée pour toutes les transmissions, toutes les données de communication de l'époque, avait été meublée selon son goût, arrangée. Elle y était heureuse à bord parce qu'il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas de politiciens, il y avait 200 marins. Et c'est un bateau impressionnant. Il est aujourd'hui dans le port d'Édimbourg. Et on voit que c'était très simple, mais c'était l'évasion. Après près de 800 voyages officiels. Donc la reine a versé une larme. Mais d'un autre côté, lorsqu'elle a appris l'assassinat de Lord Mountbatten par Lyra, la reine était près d'un jardin. Elle s'est éloignée en ne disant rien, mais on a vu, les témoins, on a vu qu'elle sanglotait de dos.
Donc le mot d'ordre, c'est quand même la maîtrise.
La maîtrise.
Et la pudeur.
Et c'est la raison pour laquelle elle ne s'entendra pas avec sa belle-fille Diana, qui voulait exposer ses attitudes, ses souffrances, ses griefs, etc.
À demain pour poursuivre. Merci beaucoup Jean Descartes.